Radio Esperanza.
Bonjour à tous les auditeurs de Esperanza. Bienvenue aux festivaliers, bienvenue à ceux qui nous écoutent sur Radio Floref et à tous ceux qui nous écouteront en podcast plus tard. Donc je suis Nathalie de la radio, présente avec le collectif La Barbe et Bruxelles. Donc désolée, on a prévu qui commençait mais j'ai déjà oublié. Donc Juliette qui est de l'association Bruxelles. Donc bienvenue en cette deuxième émission de la radio Esperanza et deuxième jour de festival.
Merci. Bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Je travaille pour Bruxelles. Bruxelles est une association qui existe depuis 2016 et qui lutte contre la précarité menstruelle. Donc l'idée, c'est de distribuer gratuitement des produits menstruels, des serviettes menstruelles. C'est important d'utiliser ce terme serviette menstruelle parce que protection hygiénique, ça a une connotation très négative. Donc je vous invite vraiment tous et toutes à utiliser ce
ouais,
terme-là.
Ouais, c'est vrai ça en fait.
Ouais. Comme si on se protégeait contre quelque chose de mal et comme hygiénique, comme si c'était sale, alors que non, c'est un phénomène biologique naturel. Donc ça c'est une de nos missions, donc la distribution des produits menstruels gratuits à travers des petites trousses. Une autre de nos missions principales, c'est la sensibilisation, donc parler du cycle menstruel, parler de la santé menstruelle. On va dans les écoles, on va dans des festivals comme ici à Esperanza, on travaille vraiment avec plein de partenaires de terrain différents pour vraiment promouvoir la santé menstruelle. Et la troisième mission, c'est un partage d'expériences avec aussi nos partenaires. Par exemple, ici, sur le festival, il y a des serviettes qui sont mises à disposition gratuitement. Et donc, c'est réfléchir à comment les mettre, où les mettre, s'il pleut, comment les protéger de la pluie, quelle affiche on met pour que les personnes sachent qu'elles peuvent se servir gratuitement et à tout moment, en fait. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais laisser la parole à la barbe.
Merci. De toute façon, on ouais. Ira les sujets après. Donc voilà, la barbe, je pense que...
Oui, donc bonjour. Nous sommes trois ici autour du micro à représenter la Barbe Liège. Alors la Barbe Liège, c'est un collectif féministe radical liégeois. Yeah. Nous, on se définit par un mode d'action assez spécifique. La barbe Liège, c'est un mode d'action avant tout. Ça veut dire qu'on va... Notre mode d'action, c'est quoi? C'est qu'on va dans des lieux où il y a beaucoup d'hommes blancs cis, dans les sphères de pouvoir, notamment dans les conseils d'administration, des entreprises, des associations, dans les panels de conférences, par exemple, où il y a beaucoup d'hommes qui prennent la parole. On va dans ces lieux-là. On met une barbe, puisqu'il faut avoir une barbe pour être entendu dans ces milieux-là. On met une barbe et on va monter sur scène. Et quand on monte sur scène, on va dire un discours adressé au public et spécifiquement aux organisatrices de l'événement pour les remercier, avec beaucoup d'ironie, on les remercie de résister à la féminisation de la société. Voilà, ça c'est un peu notre ton ironique qui ressort à travers ces actions. Et donc on va utiliser beaucoup de statistiques pour montrer que parmi les conférenciers des grandes conférences liégeoises, depuis 15 ans, ça fait 15 ans qu'il y a sur 7 conférenciers une seule femme. Et ça, on trouve ça scandaleux, du coup on va sur place pour dénoncer ça. Donc ça c'est vraiment le mode d'action typiquement de la barbe. Et donc à travers ça, on peut voir que nous, notre truc c'est de dénoncer le fait que dans notre société, les prises de décision se font beaucoup par des hommes et pas assez par des minorités de genre, des femmes ou finta, etc. Donc ici, on est vraiment sur la dénonciation de l'invisibilité des minorités, des femmes, dans les instances de pouvoir.
C'est trop stylé. Vraiment, trop stylé votre travail. On adore.
À côté de ça, on fait pas mal d'autres formes d'action aussi. Je sais pas si ton micro a repris ou...
J'espère.
Oui, voilà, ouais, voilà. Merci.
Du coup, ce que je voulais dire, c'est que c'est ça qui nous intéresse à Radio Esperanza, c'est de parler avec des assos différentes et de prouver en fait la convergence des luttes et le fait qu'on se bat tous pour des causes diverses, mais qui se rejoignent clairement. Et donc voilà, je trouve ça très intéressant d'être avec vos deux collectifs ici maintenant. Est-ce que je peux d'abord te poser une question sur les réactions des gens par rapport aux barbes et Bah, vos interventions, en fait, est-ce que c'est prévu à l'avance ou est-ce que vous interveniez... Les gens sont surpris, comment... Je suppose que vous avez tout type de réaction.
Oui, on a vraiment tout type de réaction à nos actions. Déjà, quand on monte sur scène et qu'on prend le micro, en général, il y a un moment de sidération où personne ne réagit parce qu'il y a une grande surprise face à ce qui se passe. Hein, des femmes avec des barres qui montent sur scène, il y a un petit bug dans le cerveau des gens. Ce qui nous permet, nous, de prendre évidemment le micro par surprise et de profiter de cet instant-là pour faire un discours de deux minutes, quoi, à tout casser. Après, on descend dans le public en distribuant des tracts avec le discours écrit dessus. Et à ce moment-là, on a à la fois des gens qui nous félicitent, des applaudissements, et ça dépend des lieux, mais parfois, il y a des lieux où on a des gens qui nous huent aussi. Ça montre en fait que ça a un impact ce qu'on fait, c'est ça qui est cool. Donc ça c'est vraiment comment est réceptionné le mode d'action de la barbe. Et puis après coup, beaucoup de gens à qui on explique un peu notre mode d'action trouvent ça assez drôle. et on essaie de garder un peu cette ironie là aussi à travers nos actions, quand on a dû notamment se réinventer lors du confinement et faire des actions qui n'étaient plus du coup dans l'espace public. Okay. Ou semi-public. Donc on a dû, par exemple, là, se dire, ah tiens, comment on va agir pour montrer, visibiliser les minorités dans les sphères de pouvoir. Ben, on a, par exemple, parodié des campagnes de communication d'un événement assez connu à Liège, qui sont les grandes conférences liégeoises. Ouais. Donc on a fait toute une campagne de communication complète, donc sur les réseaux sociaux, avec des affiches, avec une programmation. Qui était fausse, mais qui mettait à l'honneur que des personnes sexisées, donc des personnes qui souffrent du sexisme, des femmes ou personnes trans. On a dit, on va faire la pub pour les très grandes conférences liégeoises, qui seront encore mieux évidemment que les grandes conférences liégeoises, puisqu'elles sont beaucoup plus inclusives.
Ok, trop bien, merci beaucoup. J'avais envie de rebondir sur les réactions des gens, mais par rapport à votre thématique chez Bruisel.
Oui.
Du coup, est-ce que parfois les gens sont choqués ou se trouvent ça chouette votre projet, ou les deux, ou est-ce que tu as des réactions que tu as envie de partager?
Alors, la plupart du temps, les personnes sont très réceptives au sujet. En fait, on n'y réfléchit pas. Donc, que fait une personne menstruée qui n'a pas les moyens et qui a ses règles? Et c'est sur base de ça que la sauce s'est créée, en fait. Sur base de ce constat-là, il n'y a pas d'accès à des produits menstruels gratuits. Et donc, Véronica Martinez, qui est la fondatrice et la directrice encore à ce jour de l'ASBL, s'est dit j'ai envie de faire quelque chose par rapport à ça. Et c'était suite à une rencontre, en fait. Donc, elle a voulu aider une femme qui était à la rue. Et elle lui a dit t'as besoin de quelque chose à manger, t'as besoin d'un peu d'argent ou quoi. Et cette femme a demandé un tampon. Véronica n'en avait pas sur elle. Et elle s'est dit, OK, qu'est-ce qui existe en termes de distribution? Et c'est là qu'elle a constaté qu'il n'y avait rien. Et donc, elle a créé un collectif d'abord, avec son entourage. Ils ont cousu des trousses. À l'intérieur, ils ont mis des serviettes. Et puis, ils ont commencé à distribuer. Et depuis, ça ne s'est jamais arrêté, en fait. Ouais. Donc, c'est vraiment une réponse à une demande urgente, à une urgence, littéralement. Et donc, la plupart du temps, quand on en parle, c'est souvent « Ah, j'y avais pas pensé, en fait. Qu'est-ce qu'on fait ?» Et ça peut vraiment aussi s'étendre à plein de situations différentes. Hein. Toute personne menstruée a déjà été en insécurité menstruelle de « Ah, les règles arrivent trop tôt » ou « Ah, je pensais que c'était fini, en fait, ça continue. » Et donc, c'est temporaire, mais pour beaucoup de personnes, c'est constant, c'est tous les mois, ça revient. Et donc, nous, on essaye d'alléger cette charge mentale des personnes menstruées en situation de précarité, de visibiliser aussi, de briser ce tabou, parce que la précarité menstruelle, c'est un double tabou. Et c'est dur de dire, j'ai besoin d'une serviette, j'ai besoin, en fait, de quelque chose.
Dans la merde.
Ouais, voilà. Le sang, il coule, en fait. Enfin, ouais. Et soit il coule sur les jambes, soit les femmes, parfois, elles prennent un petit bout de papier toilette, ce que toute personne pourrait faire, mais bon, c'est le temps de retourner chez soi et de mettre une serviette, un tampon, peu importe ce que la personne utilise comme produit menstruel, mais il y a des personnes, c'est tout le temps, et puis ça met sa santé directement en danger, en fait. Papier, ça fait des petits bouts, ça reste dans la vulve, ça crée des infections, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on cherche aussi à éviter pour les femmes, et puis il n'y a rien à faire, une trousse, quand on la donne, c'est aussi... ça offre des opportunités. Donc pour une femme qui n'a pas trop les moyens, mais par exemple qui a quand même un logement, par exemple une maman solo, bah elle va payer, qu'est-ce qu'elle va payer d'abord ? Le loyer, les frais scolaires, à manger. Et en fait, parfois à la fin du mois, il n'y a juste plus d'argent pour les serviettes. Et donc avoir une trousse, ça lui permet peut-être d'aller faire son sport, de vraiment bouger, de pas juste rester chez elle, parce qu'il y a énormément de personnes qui restent juste chez elles parce qu'il n'y a pas assez de moyens financiers pour avoir un stock en fait, de produits menstruels, ou alors pas tous les mois, c'est assez incertain. Et donc donner une trousse, c'est offrir l'opportunité aussi d'être libre de ses mouvements, de ses actions, autant dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle, familiale, etc.
Ok, merci beaucoup. Je profite pour vous présenter Charline, ma collaboratrice de la radio.
Yeah, hello, coucou salut tout le monde.
Salut Charline.
Est-ce que ça va ?
Ça va, désolée pour le retard.
Charline, en même temps, une interview d'artiste et sur l'émission, donc je pense qu'elle doit courir partout pour l'instant.
Oui, c'est ça.
Merci de prendre le temps de nous rejoindre.
Avec grand plaisir. Le sujet et les thèmes m'intéressaient beaucoup. J'avais vraiment hâte d'être là.
Voilà, bienvenue. Merci. Et du coup, je me rends compte que, en fait, de la barbe, vous êtes trois, et qu'en fait, j'ai pas du tout présenté vos prénoms. Donc, je vous propose de vous présenter, si ça vous va.
Oui,
bon. Votre prénom.
Moi, c'est Chloé, elle.
Ariane, elle. Isa, elle.
Voilà. Donc, on est six autour de cette table. Que du bonheur. Chloé parlait tout à l'heure du confinement et du fait de devoir se réinventer entre collectifs qui fait des actions directes. Et je me disais que ça avait du sens aussi de peut-être parler de vous, Juliette, en confinement. Ça a dû être. Je pense que la précarité menstruelle était encore plus exacerbée, comme tous les types de précarité durant ce confinement. Et donc, est-ce que vous aussi, vous avez une réflexion ? Enfin, je sais pas si tu travaillais déjà là-bas.
Alors, non, je travaillais pas encore là-bas à l'époque. Mais par contre, c'est vrai qu'on garde du coup une trace de toutes nos distributions. Et au moment du confinement, les distributions ont explosé, quoi. Parce qu'il faut aussi prendre conscience que, par exemple, la précarité menstruelle estudiantine, toutes les personnes qui avaient des jobs étudiants n'avaient plus lieu d'être. Et donc, on a énormément distribué en fait dans les hautes écoles, les universités et autres. Donc, déjà ça, ça a eu un impact énorme. Et oui, à tous les niveaux, on s'est dit, OK, il va y avoir une mise en place. Mais en fait, personne n'y pense. Mais il y a eu les inondations à Liège. C'était quoi, il y a 2 ans, les grosses inondations?
Ouais, 2021, je dirais.
3 ans déjà. Ouais.
Voilà. Mais en fait, Bruxelles s'est rendue dans les centres où il y avait toutes les denrées alimentaires, etc., tous les produits d'hygiène. Il n'y avait pas une seule serviette. Il n'y avait rien. Donc, qu'il vente, qu'il pleuve, que ce soit à la fin du monde, les règles elles sont toujours là, en fait. Du coup, ce qui se faisait, c'est que Bruxelles récoltait des fonds un jour, il y a un jour, ils allaient acheter, ils en troussaient, ils cousaient, et puis ils distribuaient, quoi. Et comme ça, ainsi de suite, pour quand même proposer ce genre de produit-là, parce que déjà, c'est un inconfort énorme d'avoir perdu... Enfin, c'est même pas un inconfort, c'est même pas le bon mot. C'est un drame d'avoir perdu, peut-être... sa maison,
ta
beaucoup
vie.
Plus, ta vie. Et en plus de ça, tu dois gérer tes règles au-delà de tout ça. Donc, c'est beaucoup. Donc, oui, clairement, le confinement a eu un impact. On a vraiment, Bruxelles a vraiment beaucoup plus distribué. Et dans d'autres urgences comme ça qui peuvent arriver, c'est aussi des moments où, en fait, il faut pas oublier. Et on s'est déjà mobilisé pour d'autres choses, comme la guerre en Ukraine, ce qui se passe maintenant avec... le génocide en Palestine, ça aussi on s'est mobilisé pour ça et on essaie de visibiliser, et c'est là aussi avec la barbe, je pense qu'on se rejoint, c'est qu'on essaie tous les deux de visibiliser des choses qui sont tellement invisibilisées par la société en fait. Les règles, on peut pas en parler, on peut pas le dire, et malgré
tabou,
la situation la plus extrême, ça reste là et c'est fou, non ?
Oui, et ça traverse des tabous dans tous les lieux. Je veux dire, même au travail, dire qu'on a nos règles, tu vois, ça va.
À nous, ça va.
Ouais, ça va, mais évidemment, on espère.
Mais ça génère toujours de la honte, en fait.
Ah oui, ouais, alors que c'est quelque chose qui ne doit pas être honteux. Et c'est, ça
vous
concerne la moitié de la population.
Au boulot, vous dites... Comme quand vous dites « Ah, j'ai faim, je vais chercher un lunch, un sandwich », je dis « Ah, j'ai mes règles, je vais changer ma serviette ». Et là, vous regardez tout le monde.
J'adore.
Et ouais. Le tampon, vous choisissez ce que vous prenez. Hein, mais... Et là, vous allez voir les gens. Parfois, on fait un braquage de serviettes, on va dans les supermarchés et on prend blindé de serviettes parce qu'on doit bien remplir nos trousses.
Braquage de serviettes, j'adore.
Et quand t'es à la caisse, là, avec tous ces trucs...
Il n'y a pas de
gens,
vendeur en gros de serviettes.
Mais juste parfois, c'est juste pour avoir le regard des gens sur ça et être fier d'avoir... Et on a aussi des bénévoles hommes. Et donc, quand c'est eux qui sont à la caisse et qui payent, là, c'est quelque chose. Quoi. Là, il y a un... Voilà, c'est génial. Et ça envoie un chouette message. Mais c'est vrai qu'autour, les gens sont gênés, en fait. Mais peut-être que la prochaine fois qu'ils verront le braquage, ils seront un peu moins gênés. Et on en verra
ils
tous.
Ils diront, c'est bon, c'est Bruxelles.
C'est Bruxelles, ouais, exactement.
Très bien. Et du coup, je tiens à souligner que le Festival Esperanza met à disposition
exactement, de protection. C'est la deuxième année qu'on le fait. L'année passée, on avait distribué environ 4000 serviettes, un peu plus. Cette année, on va voir combien on distribue. Mais oui, l'idée, c'est que je parlais de précarité menstruelle, mais ici, sur le festival, c'est d'assurer la sécurité menstruelle. Donc, c'est que toute personne menstruée puisse avoir accès gratuitement et rapidement à des produits menstruels. Donc qu'on soit milliardaire ou qu'on n'ait pas un rond en poche, au moment des règles, s'il faut une serviette, il faut une serviette. Le temps de sortir du festival, aller au magasin, la tâche elle est là, l'inconfort il est là. Et donc l'idée c'est que ici tout le monde est au même niveau et toute personne qui a besoin en tout cas de ce type de produit-là peut se servir sans devoir demander à quelqu'un ou à 10 personnes si t'as pas une serviette. On m'a encore demandé au stand parce qu'on en a au stand. Ah, est-ce que tu veux bien me prêter un tampon?
Mais c'est mignon.
Alors, je propose de te le donner.
Ne me le rends pas après. Ça va, garde-le.
Je suis à l'aise avec les règles et tout, mais je n'ai pas besoin de le récupérer. Donc oui, c'est sur le festival et n'hésitez pas à tout moment, si vous voyez qu'on n'a plus, de passer le mot. Il y a du stock, donc ça peut être réapprisonné. Et il y en a toujours à notre stand aussi. On a des tambours à notre stand, mais il n'y en a pas dans les Cathy. Voilà, ça vous savez. Et le festival voilà, a bien géré le truc, il gère bien la logistique aussi. C'est super qu'ils aient accepté aussi de mettre ça à disposition. Ils voulaient le faire. Donc voilà, c'est cool de penser à ça et de faire un petit pas en plus vers l'inclusivité des sites comme celui-ci.
Ok, merci. Je vous propose une petite pause musicale. Donc on va écouter Aluminé, Guerrero et Yeman qui passaient cet après-midi dans la scène Jardin.
Fiesta con la parra y la violeta, gata blanca, gata negra en el techo y en la tierra. En el patio hay una fiesta con la parra y la violeta, gata blanca, gata negra en el techo y en la tierra. Si a mí me gusta que suenen las hojas de la vereda, no me barran la hojarasca que quede hasta primavera. Vengo rompiendo baldosas con un grito. aguacero, yo te espero. Si me mojas, pero sin vos no muero. Casa de sol, techo de luna, me cuidan desde la cuna. Tejo mi propia fortuna, soy hierba mala, flor de la llanura. Con la parra y la violeta, gata blanca, gata negra, en el techo y en la tierra. Si a mí me gusta que suenen las hojas de la vereda, no me barran la hojarasca que quede hasta primavera.
Radio Esperanza.
Voilà, rebonjour. Donc, nous sommes toujours avec Bruxelles, le collectif Bruxelles, représenté par Juliette.
L'association.
L'association, pardon. Merci.
Mais le collectif là-bas.
C'est ça, oui.
Donc, avec Chloé, Ariane
et Isa.
Désolé, Isa. Merci. Du coup, on va reprendre avec une question pour le collectif La Barbe. Donc, est-ce que vous souhaitez nous présenter un peu votre activité à Esperanza? Les thématiques que vous abordez à votre stand, qu'on viendra visiter jusqu'à demain soir. Vous êtes là jusqu'à demain soir?
Yes, on est là jusqu'à demain, 19h.
Ok.
Et oui, on vous invite évidemment à venir nombreuses sur le stand. On a plusieurs activités. On en a une qui est ce qui s'appelle Check tes privilèges, pour savoir en fait comment chaque personne se situe sur l'échelle des privilèges. Et donc, je vous invite à venir voir quels sont où vous situez. On a un deuxième jeu qui est la pêche au canard, mais en version statistique. Quelle est la représentation en fait genrée et des personnes discriminées dans les lieux de musique, dans les festivals, etc. Et on a mis aussi quelques statistiques en lien avec la thématique d'Esperanza aujourd'hui, qui est sur le décolonialisme. J'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'il y a des actions ici qui ont eu lieu à Esperanza par le passé et qui ont eu vraiment des grandes répercussions. Hier, il y a une meuf qui est venue sur le stand et qui nous a dit qu'elle était, elle s'était éveillée au féminisme suite à un atelier qui a eu lieu il y a quelques années par La Barbe, où il y avait un espace safe qui avait été créé. Et elle n'avait jamais vécu ça, elle ne s'était jamais rendue compte de toutes les agressions qu'elle avait pu vivre. Et c'est en étant à ce moment-là à Esperanza que ça l'a éveillée et depuis elle milite en fait.
Wow.
Donc voilà, on a eu plusieurs personnes comme ça. Mais oui. Et puis j'ai envie de dire aussi, bien, on a encore du taf à faire, parce que merci Esperanza, l'année passée, en 2023, 54% des représentations musicales, c'était des représentations féminines. Mais hier soir, on a assisté au concert de Pete. Et voilà, juste pour vous dire, apparemment, les filles et les meufs dans l'assemblée n'étaient pas présentes. Parce que, un petit exemple, les mecs, pendant le pogo, s'il vous plaît, attendez le refrain.
C'est Pete qui disait ça, c'est
c'était
ça.
C'était Pete, ouais.
Oui. Donc, dans la façon de s'adresser au public, il s'adressait que.
Que aux mecs.
Aux hommes.
Ouais. Donc voilà, donc c'était les mecs attendez le refrain pour faire le pogo, les mecs mettez-vous en cercle, vive les gars, et on en était là, bon ben apparemment il n'y a pas de meufs qui font de pogo, il n'y a pas de meufs qui t'écoutent ici, ok, donc il y a encore du taf à faire même en termes de façon de s'exprimer et d'inclusivité en fait des artistes vers le public quoi.
Ouais, ça fait longtemps qu'on vient à Esperanza quand même. En 2018, on avait fait une action La Barbe, donc c'est-à-dire qu'on était monté sur scène à Esperanza pour dénoncer le fait qu'il n'y a pas assez de femmes sur les affiches des festivals en général, d'Esperanza aussi en particulier. Je pense qu'on était autour de 23% en 2018. Et cette année, donc l'année passée, en 2023, on a pu compter sur les statistiques de Civias, qui comptabilise en effet, comme tu l'as dit, 54%, mais il s'agit de projets féminins. Donc ça veut dire que lorsque dans un groupe il y a une femme, on considère que c'est un projet féminin. Donc c'est pas en termes de valeur absolue qu'il y a plus, il y a
autant de femmes que d'hommes, mais c'est plutôt en termes de projet dit féminin.
Mais nous sommes super contentes, évidemment, voilà. Parce que dans les autres festivals, on très en bon est élève. Loin.
Même juste en projet féminin, on n'est pas du tout à ça.
Ouais, voilà,
ça.
Exactement. Et alors, un autre, donc, pour terminer nos activités, et là, je passe la parole à Ariane, on a tout un pan aujourd'hui sur le fémonationalisme.
C'est de se dire comment est-ce qu'on peut lier le féminisme au thème qui porte ici le village des possibles, à savoir le colonialisme, et donc comment finalement l'extrême droite va récupérer le féminisme pour défendre en fait des idées racistes. Donc l'exemple typique, c'est de dire que les femmes blanches sont menacées par des hommes qui sont d'origine étrangère et donc qui sont les principaux auteurs d'agressions sexuelles à leur égard. Et donc là, c'est intéressant parce que ça remet des mécanismes coloniaux en fait en vigueur. D'abord d'essentialiser et d'homogénéiser une population, donc comme si tous les hommes étrangers étaient les mêmes et avaient certaines caractéristiques et que toutes les femmes blanches étaient les mêmes et même chose, les mêmes caractéristiques. Et puis de sous-entendre que les valeurs de l'Occident, entre guillemets, sont supérieures, que nous, on a déjà dans nos pays l'égalité homme-femme et que, en fait, les grands problèmes viennent de l'extérieur. Et donc, c'est vraiment de reproduire des logiques coloniales, et on trouvait que c'était important de profiter de notre stand pour pouvoir aussi parler de fémonationalisme et de, en ces temps où la droite, l'extrême droite monte, comment est-ce qu'on peut faire pour le détecter? Quels sont les red flags et comment est-ce qu'on peut le combattre? Voilà.
C'est super intéressant.
Ouais, vraiment. Et du coup, est-ce que c'est la thématique du festival qui vous a poussé à vous questionner là-dessus, ou est-ce que c'était une réflexion
Oui, et puis un midi-ciné auquel on a pu assister dans le cadre d'une autre organisation, et de se dire, tiens, il y avait des choses qui étaient intéressantes qui ont été abordées spécifiquement justement sur l'extrême droite et le fémonationalisme. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on pourrait aussi, nous, s'approprier au niveau du collectif? Et donc on a fait revenir l'intervenante pour pouvoir former les autres personnes qui n'avaient pas assisté à au premier événement. Donc une convergence, une collaboration entre différentes associations. Voilà.
Trop bien.
Plein de thématiques intéressantes. Moi, je viendrai bien à votre stand après aussi.
Pour
checker les privilèges et
pour
renseigner sur tout ça, parce que je pense que ça fait toujours du bien de faire un petit check-up, venir, même si on pense que on est féministe, même si on pense qu'on a toujours des... On est construit, je pense, aussi par la société qui nous entoure, et en fait, on se rend pas toujours bien compte qu'il y a encore plein de choses qui sont à déconstruire, et c'est ok, en fait. Il faut juste les identifier.
Et l'idée, c'était aussi de remettre en valeur des personnalités donc féminines, féministes, trans, racisées, qu'on ne connaît pas nécessairement. Et donc, si vous venez dans le stand, vous verrez aussi différentes personnalités, vous pouvez voir qui elles sont, et alors il y a un aspect un peu plus ludique, c'est-à-dire qu'on peut en faire un badge, et ça permet aussi non seulement de connaître ces personnes-là, mais de pouvoir les visibiliser aussi et en parler quand tiens, je ne connaissais pas telle ou telle personne. Rocada Diallo, Grace Lee, enfin il y a
Morgan Noam,
Mélanie Garland, voilà.
Joy Bolamwini.
Voilà.
Okay. Si ouais, j'ai des badges sur mon pantalon, il y en a plein.
Je crois que ça peut être intéressant parce que je crois que sur les noms que vous avez dit, il y en a deux que je connais. Donc ça peut être vraiment bien d'aller voir.
Et on invite, si les hommes nous écoutent, à vraiment venir faire le petit check les privilèges.
Ça peut on a un peu ludifié ça en plus, ouais. Un petit jeu où on peut avancer ses pions en fonction de si on a... si on répond à l'affirmative à cette question-là ou pas. Enfin, voilà.
Et du coup, par rapport justement à votre audience, si je peux dire, aux personnes que vous touchez, au niveau des hommes, est-ce qu'il y en a quand même, vous voyez qu'il y en a peut-être de plus en plus qui sont intéressés par ça, ou pas nécessairement par rapport aux personnes qui passent dans votre stand?
Aujourd'hui, justement, on a déjà eu pas mal d'hommes, en fait. Et c'est trop intéressant, et ça fait même plaisir, et en plus ils ont hyper bien réagi, ils étaient hyper curieux, et ils ont été à l'écoute, donc on les invite vraiment, quoi.
Ok. Parce que, parce que justement, j'avais eu il y a quelques années, il y a quelques temps, c'est quand le plan Sacha a été mis en place ici sur, sur Esperanza, où on avait commencé avec les slogans « La musique me touche, pas besoin que ce soit tes mains en plus », des choses comme ça. On avait interviewé un peu des hommes par rapport à ce thème, par rapport à ce genre de comportement. Et il y en a quand même quelques-uns, ça m'avait un peu interpellée, qui disaient « Oui, mais avec ce genre de choses, après, on n'osera même plus draguer les femmes ». Mais c'est parce que, enfin, je sais pas si du coup vous en parlez aussi dans vos stands avec les chefs, si on se rend compte que du coup les hommes n'ont aucune idée de la façon de draguer sans agresser. C'est presque ça en fait. Enfin, je sais pas ce que vous ressentez par rapport à ça, mais quand ils m'ont dit ça, j'étais en mode, ben en fait, si tu peux être poli, tu peux respecter le choix de la personne qui te dit non, qui te dit oui. Ah voilà, je sais pas si vous avez eu des échanges par rapport à ça. Je trouve ça intéressant justement par rapport au festival parce que on est dans la musique, on est dans l'ambiance. Moi, je suis sortie il y a quelques temps à une soirée. J'ai un gars qui a eu un comportement très problématique, qui venait toucher la poitrine des femmes et des choses comme ça. Et ses potes, ils disaient oui, mais bon, il est bourré. Et je disais, mais c'est pas une excuse. Donc je sais pas si vous, dans vos échanges que vous pouvez avoir, vous avez peut-être des conseils à donner par rapport aux techniques de drague qu'on peut avoir sans être agressif vis-à-vis des femmes ou en étant respectueux. J'ai l'impression qu'il y en a qui doivent vraiment apprendre ça.
Oui, maintenant, c'est pas à nous à les éduquer, c'est à le faire eux-mêmes. Enfin, je veux dire,
Oui.
Donc, s'il y a d'autres moyens de draguer, bien sûr que oui. Maintenant, c'est pas pour ça qu'ils doivent aller voir un coach en séduction.
Oui, surtout quand on voit ce qu'ils proposent.
Surtout quand on voit ce qu'ils proposent de la sauce masculiniste et tout. Ce serait plutôt inquiétant qu'ils s'entraident entre eux, en tout cas. Mm-hmm. Mais bref, pour moi, c'est simplement leur dire que c'est pas lié à la personne, c'est pas lié à des contacts interpersonnels. C'est simplement, même si simplement entre guillemets, mais c'est lié à un système patriarcal. Et en fait, le problème, c'est pas se joue pas entre elle et lui, puisque là on parle d'hétérosexualité
oui.
apparemment.
Enfin,
donc le problème, c'est pas entre elle et lui. Le problème, c'est la société patriarcale en elle-même qui impose aux femmes d'être les victimes des hommes et qui mm-hmm. impose aux hommes de jouer de leur virilité pour collectionner les femmes, etc.
Oui, enfin,
c'est
ça.
Tout ça que ça tire tout ce fil-là en fait.
C'est ça.
Et nous, qu'est-ce qu'on préconise ici comme démarche, notre démarche c'est plutôt inviter toute personne, homme, femme ou autre, à s'interroger sur ce système, quelle place il prend concrètement dans nos vies ça bouffe évidemment les relations interpersonnelles et de drague mm-hmm. Au festival, mais c'est vraiment un symptôme de quelque chose de plus large.
Oui, c'est ça.
Et je pense que complétez-moi les filles. C'est en agissant vraiment sur cette lecture du féminisme et de la société que on peut contrer.
Être
un peu plus inventif
ouais.
dans nos relations personnelles.
Ouais, j'ai envie de les rediriger vers Plan Sacha qui fait vraiment du contenu incroyable pour apprendre c'est quoi le vrai consentement et pas
oui,
juste on m'a pas dit non donc c'est oui. C'est bien plus que ça. Mm-hmm. Ça va même dans le non-verbal et dans la façon dont la personne que l'on souhaite séduire se comporte quoi. Donc c'est vrai que c'est à eux à faire le taf et il y a du...
Il y a du taf.
Il y a du taf et il y a surtout des outils à leur disposition, en fait.
Oui, c'est
ça existe, quoi.
Ça existe, quoi, en fait.
Ouais, et puis écouter les femmes, écouter les lesbiennes, écouter...
écouter les gens avec qui ils ont entré en interaction.
Toutes les autres minorités qui ont des choses à dire.
Poser des questions aussi.
Être plus inventif.
Vous pouvez oser poser les questions.
Juste poser une question, moi, est-ce que je fais... Est-ce que j'ai l'impression que je te dérange? Est-ce que je te dérange? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux pas faire ça? Juste pose une question.
Et respecte la réponse.
Souvent, oui, des mecs qui disent ça, on peut plus draguer. Mais demande, en fait. Comment je peux te draguer?
Ouais.
Qu'est-ce que t'aimerais bien que je fasse? Enfin, je pense que juste, moi, j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui sont là. En fait, c'est quoi le féminisme? Et c'est pas grave, en fait. C'est ok de demander. Ah, en fait, ça, je comprends pas. Pourquoi? C'est quoi les questions de genre? C'est quoi? Juste poser la question. C'est déjà, je trouve,
c'est une belle étape.
Et c'est déjà possible de le faire. Et Et je trouve que c'est accessible en tout cas à tous, toutes.
Mm-hmm. Quand tu dis être curieux et considérer les réponses. Ouais. Surtout considérer après la réponse qui est entendue et pas dire oh allez.
Ouais.
Ouais.
Mais c'est ça, en fait, je trouve avec le on peut plus draguer, on peut plus rien dire. En fait,
change ta posture.
Les choses qui étaient normalisées avant ne le sont plus.
Ouais, c'est oui. Ça.
Et donc en fait, c'est ça qui est hyper important. Et ça les renvoie à eux-mêmes, à des mm-hmm. choses qu'on a toujours tout fait. Fait comme ça, et donc ça, moi j'ai envie de répondre, bah, bien sûr que si, en fait, on peut encore tout dire, mais c'est juste que si tu dis de la merde, on va te le dire. Donc,
bah oui,
voilà.
C'est juste maintenant, on ose dire aussi nous quand ça ne nous va pas. Voilà. Plus.
C'est ça, on doit apprendre à mettre de la limite.
Oui.
Compliqué. Je suis désolée, mais on va devoir bientôt clôturer l'émission. C'est super intéressant et on se réjouit de vous rencontrer toutes à vos stands pour approfondir tout ça. J'avais peut-être une petite dernière question parce qu'on parlait des hommes qui s'arrêtent à votre stand. Est-ce que chez vous, Bruxelles, les hommes s'arrêtent ou ils voient des tampons et ils continuent leur chemin?
Non, c'est oh, c'est quoi une queue? Ah, c'est quoi ça? Oh, et comment ça se met? Oh, ma copine, elle aimerait bien faire ça et donc du coup, je transmets toutes les infos. J'espère que ça va être retransmis après.
Okay.
Mais non, hier, j'ai eu deux jeunes garçons. Ils devaient avoir maximum 14 ans et hyper curieux. Juste hyper curieux et ça. Ah non, mais ça, c'est pas juste. Il devrait avoir des serviettes partout. Et j'étais là. Mais on discutait, il cherchait des solutions, en fait. Et donc, dans son esprit, c'était. Je lui avais expliqué, en tout cas, comment Bruxelles voyait les choses, voyait les règles. Et il a un peu pris le truc. Et donc, oui. Moi, je trouve qu'il y a quand même aussi des hommes qui viennent. L'année passée, on a eu un peu quelqu'un assez relou qui a vu une cup et qui a dit « Oh, ma femme, j'aimerais bien qu'elle mette ça. Ah, cette connasse. » Je parlais de ça. Il y avait une bénévole et la bénévole était là. « Mais pourquoi tu parles comme ça ?» Et tu es là « Oh, ça va. Moi, je veux juste donner de l'amour. Viens, on se fait un câlin. » Et tu es là
oh. «
Ben, non. » Et moi, j'ai dû l'expliquer. C'est pas parce que tu veux donner de l'amour que la personne veut la recevoir, en fait. Et surtout le comportement. Surtout le comportement qu'il a. Donc voilà, c'est vrai que cette année, en tout cas, tout s'est bien passé. Et généralement, autant, enfin, quand on fait de la sensibilisation, c'est toujours en mixité. Et ça se passe toujours très bien. Donc ça, c'est chouette. Et je pense que l'éducation sur la santé menstruelle se fait autant avec les garçons que les filles. Et c'est pas la question que tu m'as posée, mais quand même par rapport au stand, on a quand même une question qui est liée à la thématique de cette année, vu qu'on va bientôt terminer. Si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas à venir écrire la réponse sur un petit mot, on a une boîte à mots, vous pouvez glisser. C'est comment la colonisation a impacté les menstruations. Comment ça impacte encore aujourd'hui. Donc nous, on a fait des recherches, il y a quand même peu d'études sur ça, donc c'était pas facile de trouver des infos. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des documents à partager, des ressources aussi dans lesquelles on peut puiser des informations ou juste vous-même, vous avez un avis sur la question. Nous, on cherche encore des réponses et des réflexions, donc n'hésitez pas à les partager avec nous.
Ok,
bah, super. Merci beaucoup en tout cas pour votre présence à toutes.
Merci. Merci beaucoup.
À tout bientôt.
Très bien.
Merci.
Super.